Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h.
I'm the king of the world!
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire de l'expédition Étoile Blanche qui a permis la découverte de l'épave du bateau le plus célèbre du monde, le Titanic. En 1985, une mission franco-américaine part à la recherche du Titanic dans l'océan Atlantique. Grâce à des moyens techniques innovants et au travail de plus d'une quarantaine de chercheurs, elle parvient à localiser l'épave qui repose par 3800 mètres de fond. Alors, ces explorateurs des mers remontent des images et des objets chargés d'une émotion rare, porteuse du souvenir d'un voyage et surtout d'un naufrage qui a marqué les mémoires. C'est par une nuit glacée d'avril 1912, au large des côtes canadiennes, que le Titanic a sombré. Fleuron de la marine marchande anglaise, ce paquebot gigantesque et réputé insubmersible rencontre sur sa route un iceberg fatal. En quelques heures seulement, les milliers de tonnes d'acier disparaissent au fond de l'océan, emportant avec elles les vies de plus de 1500 passagers. Notre invité aujourd'hui, Jean-Paul Justiniano. Il a fait partie de la première expédition française d'exploration de l'épave du Titanic. C'était en 1987, il est donc notre invité et il nous attend à Aix-en-Provence. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Gabriel Debray, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio et David Jacubovies.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Queenstown, Irlande, 11 avril 1912. Séjour de fête sur le port. Des centaines de personnes ont fait le déplacement et brandissent mouchoirs blancs et chapeaux en direction des derniers passagers qui embarquent sur le Titanic. L'ombre immense du bateau britannique s'étale sur la foule qui s'agite. En tout, ils seront 2200 passagers à bord de ce bateau pour son voyage inaugural. Des personnes de tous horizons, représentant toutes les couches de la société européenne de 1912. On y trouve des célébrités, des familles de la classe moyenne, des ouvriers irlandais en partance pour le rêve américain. Sur le pont du bateau, l'une des passagères se démarque par son élégance. Emmitouflée dans un manteau de fourrure et coiffée de l'un de ses légendaires chapeaux, Molly Brown observe le ballet des voyageurs qui embarquent sur les ponts inférieurs. Molly, elle, est montée sur le bateau la veille, à Cherbourg, en France. C'est une aventurière, habituée des voyages. Elle est connue pour sa gouaille, son charisme et son engagement humanitaire. Les dimensions du Titanic sont gigantesques. 269 mètres de long, 54 mètres de haut, 46 300 tonnes d'acier. Pour nourrir l'équipage et les passagers, on a embarqué 35 tonnes de poissons, la même quantité de viande, 55 tonnes de légumes, 15 000 bouteilles de bière, 35 000 œufs, 8 000 cigares. Le navire appartient à la White Star Line qui, pour faire rougir ses concurrents, a fait le choix de tout miser sur le luxe. Les salles de bal sont richement décorées, les restaurants proposent les mets les plus fins. Même pour les passagers les plus modestes, le voyage est d'un confort inédit. Les voyageurs de troisième classe peuvent dormir sur des matelas au lieu des traditionnels lits de paille. Mais les places restent chères. Pour s'offrir un ticket de troisième classe, il faut débourser l'équivalent de 2 mois de salaire pour un ouvrier irlandais. Molly Brown, elle, voyage en première classe. Sa cabine est spacieuse et richement décorée. Quant au voyage, il se déroule le plus délicieusement possible entre repas mondains et soirées dansantes. Mrs. Brown n'est pas dépaysée, c'est une femme du monde. Pourtant, dans la haute société, on la connaît pour ses manières, disons, décalées, peu respectueuses des us et coutumes de la haute bourgeoisie américaine. Elle a grandi parmi les classes populaires. Ceci explique cela et en a gardé les traces. Mais si certains commentaires sont moqueurs, jamais Molly Brown ne se laisse marcher sur les pieds. Elle s'est construite toute seule. Devenue riche, grâce à un coup de chance, la découverte d'un filon d'or dans l'une des mines de charbon de son mari, elle n'a jamais cessé de travailler ni de militer. Et son argent, elle le met au profit des causes qui lui tiennent à cœur. Le droit des travailleurs pauvres, des femmes, des enfants. Dès les premiers moments du voyage, Molly s'est liée d'amitié avec Miss Stone, voyageuse fortunée qui a décidé de parcourir le monde avec sa gouvernante, Amélie Icar, qui ne la quitte pas. Alors, sur le pont, elles se racontent leurs souvenirs d'Égypte, de Palestine, d'Europe. Leur histoire semble épouser celle de l'Empire britannique. 50 ans plus tard, Amélie Icar se remémore son voyage à bord du Titanic.
Pendant 4 jours que dura la croisière éphémère du splendide transatlantique, ce ne furent que fêtes, dîners d'apparat d'un luxe vraiment royal. Toilettes les plus somptueuses, un étalage éblouissant de bijoux et de rivières de diamants dignes d'un faste oriental.
À 13h30, le 11 avril 1912, le Titanic est fin prêt pour emmener ses passagers jusqu'à New York. L'arrivée est prévue 7 jours plus tard. Molly Brown, Miss Stone et Amélie Icar jettent un dernier regard vers la Terre. Soixante-treize ans plus tard, 1er septembre 1985, océan Atlantique, environ 500 km au sud-est de Terre-Neuve. Dans la cale du Knorr, le bateau de Robert Ballard, océanographe américain, le temps commence à paraître long. Ça fait déjà 2 mois que les équipes du Woods Hole Institute et de l'Institut français de recherche pour l'exploration des mers ratissent les fonds de l'océan à la recherche de l'épave du Titanic. C'est Robert Ballard qui est à l'origine de l'expédition. L'océanographe chercheur au Woods Hole rêve du Titanic depuis de nombreuses années. Il dispose d'un matériel de pointe en partie financé par la marine américaine. L'US Navy lui a demandé de partir à la recherche de 2 sous-marins disparus en mer dans les années 60 pour déterminer la cause de leur naufrage. En échange de ses recherches, il a obtenu le droit de poursuivre son expédition sur les traces du Titanic. D'après les estimations, ça tombe bien, le navire devrait se trouver entre les 2 sous-marins perdus. Ballard est sûr de son coup. Quelques années plus tôt, une autre expédition de l'US Navy avait repéré l'épave d'un bateau coupé en 2 dans cette zone. Tout porte à croire que ce serait le Titanic. Pour l'océanographe américain, l'expédition est un défi de taille. Depuis la disparition du navire en 1912, nombreuses furent les tentatives de le retrouver, lui et ses trésors. Pensez donc, l'épave renfermerait des centaines de milliers de dollars de bijoux gardés à l'abri dans des coffres-forts. La dernière tentative en date pour le retrouver est celle de Jack Grimm, milliardaire texan, passionné d'épave, qui tenta sa chance au début des années 80, sans succès. En 1982, Bob Ballard décide donc de monter sa propre expédition, qui sera aussi l'occasion pour ses équipes de tester leur nouveau radar latéral, le Scorpio. Dans un documentaire qu'il a réalisé pour la National Geographic, en 1986, Ballard raconte la genèse de cette aventure.
Personne ni aucune organisation ne partageait mon rêve. Il en existait des éléments, la technologie, le bateau, le sous-marin. C'était vraiment comme Cendrillon qui allait au bal. Je devais aller chercher les chaussures de quelqu'un et la robe d'une autre et... Et je savais qu'à minuit, je rentrerais dans une grosse citrouille, alors j'étais dans l'urgence, ça devait être fait tant que j'en avais le temps.
De l'autre côté de l'Atlantique, les équipes de l'Institut français pour la recherche et l'exploitation des mers, plus connu sous le nom d'IFREMER, viennent de mettre au point un nouveau sonar ultra-performant, le SAR. C'est une machine massive qui pèse environ 2 tonnes et permet, en étant tractée par un bateau, d'observer le fond des océans avec une précision jusqu'alors inégalée. Sa technologie permet de révéler des objets de petite taille d'une 20aine de centimètres. Eux aussi doivent tester leur matériel grandeur nature. Les deux équipes ont tout à gagner à travailler ensemble. Elles mettent donc en place un protocole de collaboration qu'elles nomment l'Étoile Blanche, en hommage à la White Star Line, la compagnie qui fit naviguer le Titanic. En juillet 85, Français et Américains montent ensemble à bord du Surwatt qui appartient à l'Ifremer. Les Français, dirigés par l'ingénieur Jean-Louis Michel, ont 21 jours pour explorer 40 hectares de fond à la recherche du Titanic. Avec le SAR, ils ratissent le fond de l'océan. Mais au bout de 3 semaines, les écrans montrent toujours la même couche monotone de sédiments et de boue marine. À contre-cœur, ils doivent passer le relais aux Américains. Les deux équipes embarquent à bord du Knorr, le navire de Robert Mallard. Il reste 10 hectares à explorer sur la zone qu'ils avaient définie. Mais l'équipe du Woods Hole Institute décide tout de même de repasser par l'endroit où les Français avaient commencé leurs recherches. Mallard dispose d'informations secrètes de l'US Navy qui indiquent avec précision l'endroit où reposerait le Titanic. Or, la zone a déjà été explorée au début de la mission. Et si les Français l'avaient ratée lors de leur passage? L'intuition de Mallard était la bonne. Et dans la nuit du 1er septembre 1985, alors que la mission touche à sa fin, les caméras de National Geographic capturent ce moment historique.
Wreckage.
Une épave.
Bingo.
Yeah.
Somebody ought to go get Bob.
Il faut que quelqu'un aille chercher Bob. Ça va lui plaire.
On y est. Regarde-moi ça.
Qu'est-ce que c'est?
Je ne sais pas, mais ça a été fait par l'homme.
Il y a d'autres trucs qui arrivent. Celui-là est énorme.
Qu'est-ce que c'est? Bon sang, c'est une chaudière.
Oui, c'est ça. Fantastique.
Sur le moniteur du sonar vient d'apparaître une forme ronde, reconnaissable entre mille. Jean-Louis Michel, le chef de l'équipe française, l'aperçoit le premier. Le cœur battant, il fait tout de suite la connexion. C'est une chaudière. Et elle est identique à celles qui sont représentées dans son ouvrage sur le Titanic, son livre de chevet depuis plusieurs mois. Puis, les chercheurs voient apparaître des hublots, des objets de toutes sortes, et finalement, l'épave entière. Celle-ci est coupée en deux, comme prévu, et autour de chaque morceau s'étale un champ d'objets disparates répandus sur le sable. Dans le poste de contrôle, c'est l'euphorie, comme s'en souvient Jean Jarry, présent sur le bateau.
Très sincèrement, moi j'étais au lit. Et soudain, il devait être minuit et demi, la porte s'ouvre et je vois le cuisinier, je me réveille en sursaut, et je vois le cuisinier qui me dit « They found the ship, they found the ship ». D'abord j'ai cru, non pas une plaisanterie, mais dans les jours précédents on avait cru voir au sonar différents échos qui en fait s'étaient révélés être des accidents de terrain. Donc je me suis dit « Oh, ils ont dû encore voir un accident de terrain ». Je me suis levé quand même, et là c'était l'euphorie, les gens qui étaient de quart à ce moment-là étaient euphoriques, et ils avaient laissé sur les écrans l'image figée de la chaudière, et effectivement ça se voyait colonné au milieu de la figure que c'était une des chaudières du Titanic.
Mais l'euphorie est de courte durée. Quand Bob Mallard, qui dormait au moment de la découverte, rejoint le poste de contrôle, il sent qu'il doit faire retomber cette joie. L'épave qu'ils viennent de retrouver par 3800 mètres de fond est une sépulture, celle des 1500 personnes qui périrent dans le naufrage. Dans le documentaire Titanic, le chapitre final, diffusé par National Geographic en 2012, il raconte ce sentiment double qu'il atteint à ce moment précis.
Deux individus s'exprimaient en moi à ce moment-là. L'océanographe qui était extraordinairement content et excité, et l'être humain qui ressentait tout autre chose. Du remords et l'idée qu'on n'aurait pas dû faire la fête. On était à l'endroit où s'était déroulé ce drame tragique et incroyable.
Mallard demande donc à ses équipes d'observer une minute de silence en hommage aux victimes du Titanic. Avril 1912, océan Atlantique, au large de Terre-Neuve. Dans les couchettes du Titanic, la nuit est calme. Le froid perçant eut raison de la résistance de la plupart des passagers qui s'attardaient encore sur les transats. À 23h, le pont est désert et chacun rejoint sa couchette pour la nuit. Depuis le début de l'après-midi, dans la salle de radio du navire, les messages d'alerte se sont multipliés. Les bateaux alentours ont repéré un nombre anormal d'icebergs qui rendent les eaux dangereuses. Pour autant, Edward John Smith, le capitaine du Titanic, reste confiant après tout. Le surnom de son navire n'est-il pas insubmersible ? Un peu plus tôt dans la journée, il a même choisi d'annuler l'exercice d'évacuation préconisé par la marine marchande. À quoi bon s'inquiéter, hein ? Voilà qui ressemble à un stress inutile, se dit-il. Dans le poste radio, les télégraphes ont entassé des messages d'alerte. Alors ils brouillent leurs signaux, occupent les ondes et les empêchent de faire partir les messages des passagers, qui pour beaucoup sont des membres éminents de la société anglaise. Dans sa cabine, Molly Brown peine à trouver le sommeil. Depuis le début du voyage, son anxiété ne l'a pas quittée, car elle a un mauvais pressentiment, et jusqu'ici, son instinct l'a rarement trompée. Peu avant minuit, alors qu'elle vient de fermer les yeux, une énorme secousse la projette hors de son lit. Elle sort immédiatement sur la coursive et interpelle le premier matelot qui passe. Que se passe-t-il ? Tout va bien, madame, tout va bien. Retournez dans votre cabine. Molly Brown est sceptique. On ne la lui fait pas. Non, il n'y avait rien de normal dans ce bruit qu'elle vient d'entendre. En rentrant dans sa cabine, elle décide donc de s'équiper pour le pire. Elle enfile 6 paires de chaussettes, une veste de laine noire épaisse et un manteau en peau de phoque. Elle pense également à glisser $500 pour sa poche et puis le talisman qu'elle a acheté au Caire quelques mois plus tôt. Un médium égyptien qui avait lu dans les lignes de sa main lui avait prédit, je le cite, enfin ce qu'elle rapporte, une catastrophe imminente impliquant de l'eau, des corps et un bateau. Molly préfère donc mettre toutes les chances de son côté. Quand elle ressort de la cabine, tout est calme sur le pont. Un calme étrange, comme ceux qui précèdent les tempêtes. La mer est d'huile, le bateau immobile. Molly se met alors à hurler tous au canot de sauvetage. Grâce à son autorité naturelle, elle parvient à rameuter quelques dames apeurées qui prennent place dans les canots. Elle ne les suit pas, elle non, elle continue à convaincre d'autres passagers de sauver leur peau. C'est alors que deux matelots l'attrapent par le bras et la jettent sans ménagement dans le canot numéro 6 qu'ils mettent à l'eau immédiatement. À son bord, il y a seulement 24 passagers alors que ce canot pouvait en accueillir 86. Quelques secondes après la mise à l'eau de son canot, la panique commence à bord du Titanic. C'est Robert Hitchens, le membre de l'équipage responsable du canot, qui a choisi de le mettre à l'eau si vite, car sa panique est si grande qu'une fois dans l'eau, il perd tous ses moyens. Incapable de ramer ni même de donner aux ordres des passagers, il se met à prier. Il en est convaincu, leur dernière heure est arrivée et prier est la seule chose qu'il leur reste à faire. Molly Brown, elle n'y tient plus, c'est ridicule, pense-t-elle. Tout près d'eux, un mastodonte d'acier est en train de couler, menaçant à tout instant d'emporter leur embarcation vers le fond. Alors, il n'y a pas une seconde à perdre. Elle évince Hitchens, qui se roule en boule au fond du canot et prend la tête de l'embarcation. Son charisme et son optimisme à toute épreuve l'aident à convaincre sans difficulté ses camarades d'infortune de ramer, oui, de ramer de toute leur force. Et voilà le canot numéro 6 qui s'éloigne doucement du naufrage qui se déroule derrière lui. Sauvée, Molly pense aux amis qu'elle s'est fait sur le bateau. Qu'est-il arrivé, par exemple, à Miss Stone et à Amélie, sa gouvernante ? Elle apprendra plus tard, à bord du Carpathia, le navire qui viendra à leur secours, que ses amis font partie des 700 survivants. Amélie, car...
Il y a 11 heures, un choc effroyable nous jeta hors du lit. Je tremblais. Nous sentions sous nos pas le pont s'incliner vers l'abîme. Les canaux de sauvetage furent rapidement descendus. Par miracle, Mrs. Stone et moi, nous sommes retrouvés dans la même barque où nous étions une trentaine de personnes. Une fois à l'eau, l'officier nous dit « Ramez fort, vous n'avez que 25 minutes pour sauver votre vie. » Je pris les avirons et ramai avec tant d'énergie que j'en ai les mains en sang et les poignets paralysés. Car il fallait faire vite pour échapper au gouffre immense qu'allait ouvrir le Titanic en sombrant.
En moins de 2 heures, il ne reste plus trace du Titanic à la surface de l'eau. Seulement des remous et la marée humaine qui appelle à l'aide, tâchant tant bien que mal de se maintenir hors de l'eau. Des débris de portes en guise de radeau, mais surtout transit froid, beaucoup en mourront avant même d'être noyés. Sous leurs pieds, le Titanic des mers coule. Son épave ne sera pas approchée pendant plusieurs décennies, comme abandonnée à son tragique destin.
D'avoir attendu tout l'été, il y en a des comme toi, et d'autres plus désespérés qui, du haut des falaises, s'étaient déjà jetés. Cet impérial qui t'a poussé, cette trempée qui t'apprendra l'enfer de la mer enflammée, tout suffoquant à bout de bras, le charme carmin des vallées. Sauvage, tu descendras tous les cafés de la jetée, pris dans la sphère sur le navire, au creux des vagues à Panama, draguer le souvenir que tu as de ses bras. Cet impérial qui t'a poussé, cette trempée qui t'apprendra l'enfer de la mer enflammée, tout suffoquant à bout de bras, le charme carmin des vallées. L'étranglement du kaolin a pris dans ta gorge. Cet impérial qui t'a poussé, cette trempée qui t'apprendra l'enfer de la mer enflammée.
Alvin, ici à 2. D'après nos relevés, vous venez de passer au-dessus de la partie avant. Nous vous proposons de mettre le cap sur 280 et d'avancer de 2 à 300 mètres à vous.
Atlantis 2, nous sommes sur le Titanic, à vous.
Alvin, nous avons compris que vous avez trouvé le Titanic, à vous.
Bien reçu, nous sommes au pied. Il semble que nous soyons près de l'arrière de la partie centrale.
...1986, à bord du sous-marin Alvin de la marine américaine. Les équipes de Robert Ballard retiennent leur souffle. Devant eux, à travers les hublots du sous-marin, vient d'apparaître l'épave la plus célèbre du monde. Recouvert de rouille et d'algues accumulées au fil des décennies, le Titanic est encore plus majestueux que dans leur imagination. Après la découverte du navire l'année précédente, ils ont décidé de mener une nouvelle expédition pour visiter l'épave. Et ils disposent d'un nouveau matériel. Le sous-marin Alvin donc, accompagné du robot Jason. Grâce à cet appareil exploratoire, piloté depuis le sous-marin, les équipes du Woods Hole Institute parviennent pour la première fois de l'histoire à prendre des images de l'intérieur du Titanic. Le grand escalier qui menait à la salle de bal de première classe est en mauvais état, bien sûr. 70 ans de vie sous-marine ont eu raison de son bois. Mais au plafond, des luminaires ornés de perles dorées pendent encore. L'exploration sous-marine est un événement mondial, retransmis à la télé par la National Geographic. Elle passionne le monde entier. Malheureusement, un problème sur les batteries du sous-marin oblige Ballard à écourter la mission et à remonter au plus vite, sans avoir pu prendre toutes les photos qu'ils auraient voulu, ni récolter l'objet. C'est un coup dur, certes, mais les océanographes ne perdent pas espoir. S'ils ont réussi à pénétrer dans le bateau une première fois, ils savent que rien ne les empêchera de recommencer. Non, il leur faut simplement un peu d'aide. Une aide qui arrivera une fois encore de la France, et plus particulièrement de l'Ifremer, qui possède ce qui se fait de mieux pour explorer les mers, un sous-marin nommé Nautil. Couloir de l'Institut français pour la recherche et l'exploration des mers à Toulon. C'est donc le Nautil qui a été choisi pour cette deuxième mission d'exploration pilotée par les Français de l'Ifremer. Autour du sous-marin, des dizaines de personnes s'affairent. On vérifie les rivets, la qualité des vitres, des hublots, l'état des hélices. Il faut s'assurer que tout est en ordre avant de le mettre à l'eau, bien sûr, avec trois marins à son bord. Le 25 juillet, les équipes de Jean-Louis Michel retrouvent celles de Ballard à bord du Nadir, un navire français, pour assister à la mise à l'eau du Nautil. Le petit sous-marin jaune, comme auraient dit les Beatles, est taillé pour l'expédition. En 1984, son baptême est célébré en grande pompe à Toulon.
Nouveauté encore, avec le lancement vendredi matin à Toulon du Nautil, le dernier né des sous-marins d'exploration scientifique français. Tellement nouveau d'ailleurs qu'il a procédé lui-même à son propre baptême en débouchant la bouteille de champagne prévue à cet effet à l'aide de ses deux bras manipulateurs, vous allez le voir.
Il y avait même la télévision japonaise pour assister au baptême du Nautil, un baptême pas comme les autres pour un bateau pas comme les autres. Le Nautil, c'est le dernier cri des sous-marins de recherche océanographique de grand fond. Conçu par l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, et construit à l'arsenal de Toulon, ce sous-marin, long de 8 mètres et lourd de quelques 18 tonnes, sera doté d'un équipage de 3 hommes qui pourront évoluer jusqu'à 5 jours, et ce, à 6000 mètres sous les mers.
Ce Yellow Submarine, le Nautil donc, est équipé de bras mécaniques qui permettent aux chercheurs d'intervenir directement sur le terrain des opérations sans sortir de l'habitacle. Pour compléter son arsenal, le Nautil a son propre robot d'exploration, le Robin. Très mobile et muni d'une caméra, il peut aller explorer les moindres recoins du Titanic et en capturer les images qui sont retransmises au Nadir, resté à la surface. C'est Paul-Henri Narjollet, l'explorateur des mers chevronné, qui pilote l'engin. L'entreprise est un défi technique. Pas question d'abîmer ni l'épave, ni les objets. Pour réussir leur mission, les scientifiques de l'Ifremer ont équipé leur sous-marin de nouveaux outils. Des ventouses spéciales conçues pour pouvoir attraper, sans la casser, la vaisselle qui gît par le fond et des paniers destinés à récolter les objets. La descente vers l'épave dure 2 heures. Pour économiser l'énergie du sous-marin, les chercheurs ont choisi de laisser la gravité faire son travail et c'est donc tout en douceur que le Nautil s'approche de la carcasse du bateau. La visibilité est faible et le suspense est aussi épais que l'obscurité. Et c'est alors que Paul-Henri Narjollet, son équipe et les passagers du Nadir voient apparaître le Titanic dans toute sa majesté.
En général, dans le sous-marin, on est toujours en train de parler. Là, pendant 10 minutes, on ne dit plus rien. Et plus personne n'a eu envie de parler. On a tous eu envie de regarder ce qu'on voyait et de penser à tout ce qui s'était passé, si vous voulez, avant. J'ai pensé aux passagers, j'ai pensé aux gens qui se promenaient sur les ponts, mais j'ai pensé aux gens vivant, quand j'étais sur l'épave, je n'ai pas pensé aux gens disparus, au moins ce jour-là, alors que j'y avais pensé quand j'étais en surface. Vous voyez la différence ? Et pour moi, elle est très importante.
impossible pour les marins d'oublier ceux qui périrent à bord du Titanic. Alors, à mesure que le robot pénètre à l'intérieur du navire, leur inquiétude grandit. Que faire, en effet, s'ils découvrent un ossuaire géant? On sait, par le témoignage des rescapés du naufrage, que de nombreuses personnes sont restées coincées dans le bateau pendant qu'il a coulé. Leurs corps doivent être alors prisonniers de leur tombe d'acier. Narjolé et ses équipiers gardent leur sang-froid. Un à un, ils récoltent des objets. Méthodiquement, doucement, à l'aide des bras mécaniques du Nautile. Des objets qui seront ensuite exposés dans le monde entier. Pour pouvoir financer cette nouvelle expédition, les chercheurs de l'Ifremer ont dû faire appel à des fonds privés à la condition de leur fournir quelques objets qui pourront être exploités. Depuis sa découverte, l'épave fascine et attise des ambitions économiques. Des compagnies touristiques commencent à organiser des visites de l'épave en sous-marin contre des sommes rondelettes. Ces visites sont réalisées sans ménagement et il ne fait aucun doute que le navire en subira des conséquences irrémédiables. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont plus de 10 000 objets qui ont été remontés, des pièces qui émeuvent toutes les personnes qui ont eu la chance de les voir. Comme en témoigne ce reportage de France 5 diffusé en 1987.
Il aura fallu attendre 75 ans pour les voir enfin à l'air libre, 75 ans pour voir et toucher ces objets qui gisaient par 3800 mètres de fond. Ce plat et cette louche avaient rendez-vous avec l'histoire. Ces lunettes sont restées presque intactes, comme tous les autres objets du Titanic. Elles vont maintenant être traitées scientifiquement pour durer, pour intégrer ce musée du Titanic qui va prochainement voir le jour, un musée itinérant. Dans l'énorme conteneur où sont entreposées les 900 pièces du Titanic se trouvent maintenant des éléments tangibles, des éléments palpables qui pourront peut-être aider les historiens à comprendre ce qui s'est réellement passé la nuit du drame dans les eaux glacées au large de Terre-Neuve.
Reste à résoudre ce mystère qui plane depuis 1912. Comment expliquer complètement le naufrage du Titanic ? En 1998, les équipes de l'Ifremer parviennent à remonter un morceau de la coque qui apportera les premières réponses à cette question. Son étude montre que l'acier qui a servi à construire le bateau était en fait de mauvaise qualité. Bon, le métal était riche en phosphore, soufre et oxygène, mais pauvre en azote et en silicium, ce qui le rendait particulièrement cassant à basse température. Or, rappelons-le, l'eau dans laquelle sombra le Titanic plafonnait à moins un moins deux. Pour autant, il serait faux de mettre la responsabilité du naufrage sur les usines métallurgiques où fut fabriqué l'acier du Titanic. En explorant l'épave, on s'est aperçu en effet qu'il ne s'était pas déchiré, mais plutôt que les joints entre les plaques d'acier avaient sauté. Ce ne serait donc pas la faute de l'acier en lui-même, pas seulement la faute de l'acier, mais celle aussi des rivets qui furent utilisés pour fixer la coque. Afin de respecter les délais de livraison et pallier une pénurie d'acier, les fournisseurs de la White Star Line ont choisi de fabriquer également des rivets en fer forgé. Trop fragiles, ces pièces au rabais auraient cédé et laissé l'eau s'engouffrer dans la coque. Depuis la découverte de l'épave en 1985 par la mission Étoile Blanche, la passion autour du Titanic n'a pas cessé. Une passion qu'on doit aussi, et bien sûr, au film du réalisateur canadien James Cameron. Titanic sort sur les écrans français en 1998. C'est un succès phénoménal, couronné par 11 Oscars. Pour préparer son film, Cameron a choisi les grands moyens. À partir de 1995, le réalisateur a mené plusieurs missions d'exploration de l'épave en personne, grâce à un sous-marin et des robots d'exploration spécialement conçus pour l'occasion. En 2001, il en tire un documentaire, Les fantômes du Titanic, et il en parle sur France 2.
Le plus émouvant, ce sont les objets personnels qui gisent encore au fond. On sait aujourd'hui à qui ils ont appartenu, certains à des passagers disparus, d'autres à des survivants. C'est cette émotion que je voudrais faire partager aux spectateurs.
Pour tourner ces images exceptionnelles en 3D à 4000 mètres de profondeur, le réalisateur a inventé deux robots téléguidés à fibre optique. Pas un recoin de l'épave ne leur a échappé. Un film techniquement bluffant que la France découvrira en septembre, mais aussi un film testament. Chaque jour, en effet, des micro-organismes rongent l'acier de la structure du navire. D'ici 20 à 30 ans, le Titanic s'effondrera sur lui-même, engloutissant ses derniers secrets.
« Les jours du Titanic sont donc comptés, menacés par la voracité d'une bactérie bien particulière, l'Halomonas titanicae, prononciation non garantie, une bactérie qui, à mesure qu'elle gagne du terrain, fait disparaître tout ce qui pourrait lever bien des mystères qui entourent encore le Titanic. Bientôt, de ce bateau mythique ne restera plus que le souvenir d'un rêve devenu cauchemar, celui des passagers qui partirent à son bord tenter leur chance en Amérique et qui, à l'image du personnage de Jack dans le film James Cameron, devait penser chacun « Je suis le roi du monde ».
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui à la recherche de l'épave du Titanic et nous allons à Aix-en-Provence dans les studios de France Double Provence où nous attend notre invité Jean-Paul Justignano. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du département des engins sous-marins de Genavir, l'organisme chargé d'exploiter la flotte de l'Ifremer. Vous avez fait partie de la première expédition française d'exploration du Titanic. C'était en 1987 à bord du Nautile. Déjà, comment se déroule la descente de la clarté des eaux vers l'opacité? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on voit? Comment ça se passe? Et combien de temps ça dure?
Donc là, sur une plongée à 3800 mètres, il faut 2 heures pour rejoindre le fond. Mmh. Donc la grosse différence entre la surface et le moment où on plonge, c'est le calme. À partir du moment où on ferme le panneau de la sphère, que le bateau nous met à l'eau et qu'on est un peu ballotté par les vagues, à partir du moment où on prend notre plongée, 5-6 minutes après, c'est le silence complet et la nuit qui apparaît, qui nous enveloppe.
Le monde du silence, le fameux monde du silence, là, il prend toute sa signification. Hein. Alors, au bout de 2 heures, vous arrivez donc aux abords du Titanic, à côté de cet amas de ferraille, qui est un amas mythique également. Qu'est-ce que vous ressentez là, quand vous arrivez devant l'épave?
Bah, disons qu'avant d'arriver sur l'épave, on a toute une approche de sécurité pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème, de risque de s'accrocher sur des morceaux des boutes ou de la ferraille. Donc, une fois qu'on arrive au pied de l'épave, on se sent tout petit, et il faut faire attention de pas se faire gagner par l'émotion, parce que bon, quand on a été bercé toute son enfance par les récits du Titanic et toute la littérature qui était consacrée à cette épave, il faut garder son côté professionnel et ne pas se laisser submerger par ses sentiments.
Oui, bien que, après tout, vous pensez que c'est il y a un moment où ça devient incompatible?
Ben non, mais disons qu'il y a un moment où il faut prendre sur soi et être capable de garder son calme, quoi.
Ouais, ouais. Bien sûr. Alors, vous avez pu visiter l'intérieur de l'épave?
Ben on a la chance avec le sous-marin Nautile d'avoir un petit robot d'exploration, le Robin, ouais, qui est pilotable directement de l'habitacle et qu'on peut déployer pour se balader, comme on dit, à l'intérieur de cette épave mythique.
Et qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué? Alors, on l'a dit dans le récit, les objets évidemment parlent, hein, ils sont éloquents, les objets, ils ont appartenu à des gens qui sont morts dans des conditions quand même épouvantables de noyade et de froid. Qu'est-ce qui vous a marqué? Quel souvenir précis vous avez d'un ou plusieurs objets?
Bah, disons que moi, ce qui m'a marqué en premier, c'est l'arrivée. L'arrivée, parce qu'on a eu, la chance, bon, ça a été un peu le hasard, hein, en grimpant une colline qu'on a appris par la suite, qui avait été soulevée par l'impact au moment où le bateau s'est écrasé au fond. On est arrivé par la partie avant, et quand on est arrivé au sommet de cette fameuse colline, on s'est retrouvé face à l'étrave. Et la première vision que j'ai de ce bateau, c'est les deux ancres de chaque côté, à bâbord et tribord.
Et pourquoi ces images-là? Parce qu'est-ce qu'elles ont de si particulier? C'est parce que ce sont les premiers que vous avez vus, les premiers objets, ou?
Parce que c'est vraiment représentatif d'un bateau.
Oui, c'est vrai.
La partie la plus noble, entre guillemets, c'est vraiment l'étrave, la partie avant. C'est ce qui est le plus... par rapport au reste de l'épave, c'est ce qui est le mieux conservé.
Alors, la première mission de 1985, qui avait pour but de retrouver l'épave, donc, a été menée en partenariat avec les Américains du Woods Hole Institute. Comment s'est passée la collaboration avec ces équipes américaines?
Ben moi, personnellement, j'ai pas participé à cette mission.
Oui, mais vous en avez parlé, j'imagine. Hein.
Oui, bien sûr, voilà, tout à fait. Donc, effectivement, c'était vraiment l'épave, une mission où c'était l'incertitude totale, parce que ils avaient quelques points, des recherches avaient été faites dans les différents musées qui traitaient du naufrage de ce bateau. Donc, c'était tous les jours un retour à l'ouvrage, essayer de chercher, de s'écarquiller les yeux devant les écrans pour arriver à trouver quelque chose, et il y avait eu quand même une grosse frustration de ne pas avoir réussi à trouver cette épave sur le bateau français avec le matériel français.
Mais qu'est-ce qu'on cherche exactement dans cette épave? Alors évidemment, il y a le côté mémoriel, qui va devenir mémorial avec ce musée, évidemment, et ces objets qui ont appartenu aux passagers, aux membres d'équipage, mais qu'est-ce qu'on cherche d'autre? Est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose qui nous expliquerait encore mieux les causes de l'accident? Bon, on sait, hein, ça, collision avec un iceberg, bien sûr, mais il y a aussi des paramètres de construction qui entrent en jeu. Je veux dire, est-ce que cette exploration, quelque part, c'est la beauté de l'inutile, comme on dit, hein, pour l'art, ou certaines explorations, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de très utile et très précis?
Alors, c'est clair que au départ, c'était un challenge, parce que ça faisait des années et des années que tout un tas d'expéditions avaient été montées pour trouver cette épave. Et puis, il y avait quand même ce côté mythique, puisque beaucoup de générations ont été marquées par ce drame. Et moi, je sais que dans ma jeunesse, j'ai été un peu bercé par ma grand-mère, qui est née à la fin du 19e siècle et qui avait été marquée à son époque par toutes ces disparitions, parce que c'était quand même un bateau qui était censé être insubmersible.
Donc, si je comprends bien, le but des recherches, il est plus pour l'histoire que pour expliquer les causes de l'accident, les causes réelles, ou pas?
Ben disons qu'au départ, c'est pour marquer l'histoire, c'est pour arriver à trouver cette épave. Et après, une fois que l'épave a été trouvée, l'étape suivante, ça a été, bon, Pourquoi ce bateau dit insubmersible a quand même sombré cette nuit-là, quoi, en 1912.
Bien, on va se retrouver dans 3 minutes, le temps d'écouter Emily Starley Taylor, All My Life. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, consacré aujourd'hui à la recherche de l'épave du Titanic avec notre invité Jean-Paul Giustiniano. Vous êtes toujours à Aix-en-Provence, vous m'entendez toujours bien, Jean-Paul Giustiniano ?
Pas de soucis, ça se passe bien.
Bon, parfait. Alors, je rappelle que vous avez participé vous-même à une exploration de l'épave du Titanic dans votre sous-marin jaune, votre Yellow Submarine. Vous faites quand même partie d'une poignée de privilégiés dans le monde. Hein. Vous êtes peu nombreux quand même. Vous êtes approchés à avoir vu en vrai, si je puis dire, l'épave du Titanic. Donc c'était en 1987. Et alors, dans cette archive du journal de France 2 qu'on va entendre, qui date de cette année 87, on apprend que votre expédition, l'expédition d'exploration française, était mal vue par certains. On va écouter.
Voici pour nos amis britanniques l'engin par qui le scandale arrive, le Nautil. Le seul petit sous-marin, il est d'ailleurs français, capable aujourd'hui d'une telle performance, descendre à 4000 mètres sous la mer. Maintenant, les premières images du Titanic, telles qu'on avait pu les voir en septembre 85, grâce à la première mission franco-américaine qui avait permis cette incroyable découverte. En 1986, une deuxième expédition avait photographié en couleur, cette fois, la salle à manger des premières classes, des assiettes, des bouteilles de Bordeaux que l'on remonte aujourd'hui. Tout est là, en place, 74 ans après la catastrophe. On parle même de remonter le coffre-fort avec ses trésors, des bijoux. C'est cela que les descendants des victimes voulaient éviter.
Alors, vous avez entendu cette archive où on parle de deux explorations, 85-86, c'est pas de la vôtre, parce que ce sont des Anglais. Étaient-ils jaloux, les Anglais ?
Ben, je pense qu'il devait y avoir une forme de jalousie, parce qu'ils n'ont pas pu aller au bout de ce qu'ils avaient prévu, et le fait d'être en quelque sorte un peu doublé par les Français, ça les a frustrés, et il y a eu toute cette campagne de dénigrement que nous avons vécu de loin en étant sur le bateau, mais qui à l'instant où on vivait cette émotion, a été assez difficile à accepter.
Et les Américains, qu'en ont-ils pensé ? Est-ce que Bob Ballard, par exemple, vous a soutenu pour cette expédition 87 ?
Ben, je ne connais pas entièrement tous les arcanes de la partie financière du montage de cette campagne, puisque l'Ifremer avait été mandaté par un organisme américain pour monter cette campagne d'exploration. Mais en tout cas, on n'a pas ressenti beaucoup de soutien du monde anglo-saxon.
Bon, en 1996, donc presque 10 ans après la première exploration de votre sous-marin, l'Ifremer est retourné auprès du Titanic pour récupérer un morceau de coque, et une opération qui a été particulièrement médiatisée. Souvenir.
Objet figé au fond de la mer, tout tordu et rouillé, dérisoire témoin d'un luxe désormais enfoui par 4000 mètres de fond au large de Terre-Neuve. Une nouvelle fois, l'épave du Titanic réveille nos fantasmes et les convoitise. Cette fois-ci, c'est une croisière qui a été organisée sur les lieux du naufrage pour assister à la remontée d'une nouvelle partie de l'épave. Un paquebot merveilleux pourtant dépecé peu à peu depuis 10 ans. Aujourd'hui, il s'agissait de récupérer la paroi de 2 cabines de première classe, une masse de 20 tonnes qu'il a fallu d'abord extraire de la boue. Pour mener à bien cette opération délicate, les Américains ont fait appel aux spécialistes français de l'Institut de recherche de la mer, l'Ifremer. Avec l'aide du sous-marin Nautile, 9 baudruches géantes ont été accrochées ce matin au morceau de l'épave.
Et voilà notre sous-marin jaune préféré. Dites-moi, ça devient un peu le trésor, le modèle au monde, ce Nautile, puisqu'on s'en est encore servi en 96.
Bah, disons qu'on a une compétence dans ce domaine de récupération de morceaux de taille volumineuse, hein, puisque le morceau qui a été remonté faisait environ 17 tonnes. Mais l'expérience acquise précédemment sur des récupérations d'avions, d'hélicoptères ou de mirages français nous a servi pour pouvoir mener à bien cette tâche pas évidente par 4000 mètres de fond.
Alors, que sont devenus les objets que vous avez remontés de l'épave, puis ces différentes explorations du Titanic ?
Ben tout a été récupéré par le mandataire de ces missions, menées par le Nautile, et aujourd'hui, ces objets sont exposés dans des musées itinérants, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en France et ailleurs.
Alors, vous me disiez que vous étiez effectivement reconnu à l'Ifremer comme des vrais spécialistes efficaces. Vous avez travaillé par exemple sur l'épave de l'avion Air France du Rio-Paris de 2009.
Oui, en 2009, l'Ifremer a envoyé son navire amiral, le pourquoi pas, sur la zone du crash de l'avion Rio-Paris. Et on a passé 3 mois avec tous les moyens d'Ifremer qui sont le Nautile. Il y avait un robot télépiloté Victor. Il y avait un sonar acoustique, le SAR, hein, celui qui avait participé en 85. Et on a passé 3 mois à essayer de localiser l'épave. Malheureusement, la zone sur laquelle nous avons cherché n'était pas la bonne zone. Et ça a été découvert 2 ans après.
Est-ce que la recherche d'épaves fait partie de vos missions les plus courantes ? Si oui, quelles autres épaves avez-vous retrouvées ?
Non, disons que sur le travail que fournissent nos équipements sous-marins, ça doit représenter 15%. Le reste, les 85%, c'est vraiment de la recherche pure au bénéfice des scientifiques. Mais on a régulièrement travaillé pour, j'ai des souvenirs, juste avant l'épave du Titanic, en 86, on a travaillé pour localiser et remonter une partie des morceaux du McDouglas italien qui s'était scratché en mer tyrrhénienne.
Le Titanic est en train de disparaître petit à petit. Est-ce que vous êtes de l'avis de Robert Ballard qui voudrait qu'on ne se rende plus dans cette épave, autour de cette épave, contre cette épave, et bien simplement pour la préserver plus longtemps ? Est-ce qu'il y a un vrai danger ?
Bon, je pense pas que l'activité des petits sous-marins type Nautilus, Alvin ou Mir russes puisse avoir une influence sur la dégradation de l'épave, mais il est clair qu'il faut travailler avec respect parce que ça représente quand même un drame qui a enlevé la vie à plus de 1500 personnes.
C'est vrai, et on ne cesse d'y penser évidemment quand on raconte le Titanic. Je rappelle, 1500 morts sur 2200 personnes sur ce bateau. Il y a donc 700 rescapés, s'il y a eu 1500 morts, mais c'est évidemment 1500, un très lourd bilan. Merci Jean-Paul Giustiniano, merci, au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'épave du Titanic, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Clément Berman qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous évoquerons l'épopée des Bleus, champions du monde de football en 1998.